Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous continuons avec le mystère de l'Église. On est dans l'article 9 du catéchisme de l'Église catholique. Je crois à la Sainte Église catholique. Et on en arrive au numéro 758. Et il est question du mystère de l'Église. Qu'est-ce que c'est un mystère ?
Alors le mot mystère apparaît surtout dans les lettres de saint Paul ou attribuées à saint Paul, l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. On parle du mystère de la volonté de Dieu, par exemple en Éphésiens 1, 9, ou dans l'épître aux Colossiens, le mystère de Dieu qui est le Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et ce mot mystère, donc, apparaît d'une certaine manière comme ce qui était caché jusqu'à présent et se révèle. Donc c'est un mot qui va de pair avec le mot révélation, dévoilement. Dans le fond, ce qui était caché, mystérieux, devient apparent, devient visible, devient révélé au cœur des hommes. Donc c'est un peu dans ce sens-là que le mot est utilisé. Il est spécifiquement grec, c'est-à-dire il n'est pas d'origine, je dirais, hébraïque. On ne parle pas du mystère. Et c'était une source donc un petit peu de confusion dans la mesure où, pendant beaucoup de temps, le mot mystère était utilisé surtout dans les cultes païens. Hein, les mystères d'Éleusis, les mystères d'Éphèse, etc. Et tous ces termes-là frisaient donc avec le paganisme. Et il fallait absolument que saint Paul détache cette révélation chrétienne de cet ensemble de féerie, je dirais, du paganisme qui envoûtait les hommes. Il fallait bien dire que c'était un mystère qui surpasse toute connaissance, comme dit Éphésiens 3, 18, 19. Donc quelque chose qui va surclasser tout ce que les hommes ont découvert par eux-mêmes ou subodoré de l'au-delà, de ce qui se passait après la caverne, comme selon l'image célèbre de Platon qui voyait les hommes dans une caverne et puis ne voyait finalement que des ombres qui passaient, mais derrière il y avait la lumière, il y avait quelque chose. Donc il y avait le sentiment qu'il y avait un au-delà, qu'il y avait quelque chose qui se passait au-delà de la mort, mais on ne savait pas trop quoi. Et on appelait cela, finalement, sous le mot un peu générique de mystère. Sans compter qu'il y avait les mystères actifs, c'est-à-dire on invitait les pèlerins dans les sanctuaires païens à faire tout un parcours à l'intérieur de ces temples pour essayer d'acquérir une certaine, je dirais, grandeur personnelle. Alors il y va de toute autre chose, il n'y a aucun pélagianisme dans le christianisme. On reçoit tout. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit déjà saint Paul ou les psaumes. Et du coup, ce que nous recevons, c'est gratuit. C'est-à-dire, Jésus, le mystère, c'est que le Christ, en personne, deuxième personne de la Trinité, s'incarne et peut être reçu personnellement par tout être à qui il se révèle.
Et donc, quand dans nos églises, quand les prêtres parlent de mystère, il faut pas comprendre, ne cherchez pas, vous comprendrez pas, c'est plutôt quelque chose nous est révélé, et maintenant il faut qu'on vous explique, que vous cherchiez à comprendre, parce que Dieu veut nous dire quelque chose. C'est ça, c'est plus proche de la révélation que du mystérieux incompréhensible.
Exactement, exactement. Parce que le mystérieux incompréhensible, dans le fond, on n'en a pas vraiment besoin. Il ne satisfait pas le cœur de l'homme, mais on y prend quand même garde de ne pas dire qu'on aurait pouvoir sur cette révélation. Et donc, au lieu de dire qu'on explique le mystère, on dit seulement qu'on l'explicite. C'est très différent, comme disait le cardinal Jourdain. L'explicitation, c'est tenir compte de tous les éléments de la révélation et d'essayer d'agencer un discours qui se tienne en fonction des éléments de la révélation. C'est une explicitation. Par exemple, le credo que l'on récite est une explicitation du mystère. On va parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de l'Église, des sacrements. Et on va voir que tout cela est mystérieux, évidemment, avec des degrés différents. Il y a le mystère incréé, totalement incréé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu un et trois fois saint. Et puis, il y a les mystères, je dirais, de l'ordre de ce qui est l'incarnation de notre Seigneur, avec les sacrements qui prolongent cette incarnation, qui est un mystère à la fois de grâce et de nature créée, puisque l'humanité de Jésus, son corps et son âme sont créés. Hein, et donc ce mystère descend en quelque sorte au niveau de l'homme, mais reste mystérieux dans son origine divine. Et il y a le rapport entre la nature et la grâce, finalement, ce deuxième niveau de mystère. Il reste un troisième niveau de mystère qui est souvent utilisé par les médias. C'est le mystère scientifique. Par exemple, je ne sais pas encore quel est l'algorithme pour découvrir tous les nombres premiers des nombres. Donc je sais seulement que c'est 1, 3, 5, 7, et ça va, on sent bien que ça va vers l'infini, mais je n'arrive pas encore à comprendre l'algorithme. Je suis obligé de calculer pour voir si un nouveau nombre de plusieurs milliards n'est pas divisible, par exemple, par des nombres entiers. Donc il y a des mystères scientifiques, mais là on comprend qu'on est seulement au niveau naturel. Donc il y a comme trois marches. La marche naturelle, où Dieu a créé tout avec ordre, mesure, intelligence, et il nous le fait petit à petit découvrir, mais c'est de l'ordre de notre intelligence, je dirais, naturelle, du l'ordre de la création. Il y a le mystère du rapport entre nature et grâce qui nous atteint depuis Jésus-Christ et depuis son dessein d'amour bienveillant qui veut nous conduire en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce troisième niveau qui est justement l'essence même de Dieu, à voir face à face, et les relations trinitaires, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc il y a dans le mot mystère une triple dimension qu'il ne faut pas manquer et ne pas confondre, sinon ça conduit évidemment aux plus grandes erreurs.
Au numéro 758, il est donc bien question, il nous est dit qu'on peut, pour scruter le mystère de l'Église, il convient de faire plusieurs choses. Et donc le catéchisme de l'Église catholique nous encourage à scruter ce mystère. Un ami disait, je préfère pas creuser le mystère de la Sainte Trinité, j'ai peur de perdre la foi. Mais donc pour l'Église, ça serait un peu la même chose. C'est qu'on pourrait dire c'est un mystère, n'y touchons pas. Mais là le catéchisme nous dit il faut scruter ce mystère.
Oui, le mot scruter revient souvent, de fait. Par exemple, au numéro 4 de Nostra Aetate, à propos du mystère d'Israël, c'est encore une autre expression de saint Paul dans l'Épître aux Romains, il dit l'Église scrutant son mystère. Et donc il y a vraiment une scrutation qui est possible, qui doit être pleine de prudence et marquée par un certain apophatie, c'est-à-dire une incapacité humaine de bien parler des réalités qui nous dépassent. L'apophatisme grec est célèbre et consiste à dire qu'il faut souvent plus nier qu'affirmer les choses quand on parle de Dieu. C'est-à-dire, beaucoup d'attributs divins sont déjà mis sous une forme négative. On dit qu'il est infini, c'est-à-dire sans fin, qu'il est, vous voyez, tous les mots qui commencent par une privation de quelque chose à propos de Dieu, immuable, immutable, tous ces mots-là, c'est une privation de quelque chose que nous ressentons ici-bas, et qui, donc, ne peut pas être attribuable à Dieu. Donc, il y a un certain apophatisme qui existe pour pouvoir bien parler de Dieu. Mais même si on arrivait à avoir un discours, je dirais, plus cataphatique, c'est-à-dire un discours plus fait d'énoncer positif, le Concile de Latran IV rappelle qu'on dit plus en affirmant ces vérités apophatiques, c'est-à-dire sous un mode négatif, on dit plus de choses vraies que lorsque on dit les choses d'une manière seulement positive. C'est-à-dire quand je dis Dieu est bon, Dieu est vrai, Dieu est grand, c'est très limité dans la vérité que j'atteins par rapport au fait que je dis par exemple il est immuable, il est infini, il est sans limite, etc. Et donc je dis plus à travers les énoncés, je dirais, négatifs que les énoncés positifs. Mmh. C'est là où on voit la grosse grande limite de notre intelligence humaine créée, et il faut toujours avancer, donc, tout petit, dans l'humilité de ces mystères divins.
Est-ce qu'il faut qu'on s'approche de ce mystère de l'Église, puisqu'on commence cet article 9, est-ce qu'il faut qu'on s'en approche un peu comme Moïse s'est approché du buisson, en enlevant nos sandales, en étant très un peu dans la crainte de ce que l'on va découvrir?
Oui, l'image est excellente. Retirer les sandales de ses pieds, c'est accepter que notre intelligence s'incline. L'intelligence peut vite partir vers l'orgueil d'un savoir acquis, et c'était la tentation d'ailleurs que Jésus a éprouvée dans la fameuse tentation où le démon le conduit au pinacle du temple et essaye de faire jouer l'écriture, un savoir erroné de l'écriture, en lui disant « si tu te jettes du haut du pinacle, des anges vont te recueillir ». Et donc on peut très vite, à partir d'une vérité scripturaire, dévier complètement. Et Jésus répond « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». C'est-à-dire, il reprend une autre partie de l'Écriture et il répond pour remettre la vérité à sa place. Et donc, le souci du chrétien, c'est de toujours rester dans une vérité humble, une vérité révélée. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un magistère qui, d'une certaine manière, régule ce discours sur Dieu, à propos de Dieu, et remarque les bons théologiens des mauvais, et fait des définitions, fait des dogmes, exprime des dogmes pour arriver à aider la conscience du chrétien à avancer libre vers ce mystère.
Merci, frère Edouard.